ici sur ce petit bouton. Je ne suis pas habitué à ça, mais maintenant, oui, ça marche. Je recommence. La dernière fois, j'avais dit que le livre de Lévitique est peut-être le livre le plus difficile dans toute la Bible. Et j'avais donné quelques explications pour cette difficulté. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres raisons. Et une des difficultés est que l'auteur ne semble pas donner tout l'enseignement sur un thème dans un seul chapitre. Il faut examiner plusieurs chapitres pour avoir l'enseignement sur un seul sujet. Et ce problème est bien réel ce matin parce que nous allons considérer les chapitres 2 et 3 de Lévitique et des morceaux dans chapitre 6 et chapitre 7. Sans doute, nous imaginons que quand on offre des sacrifices dans l'Ancien Testament, c'est à cause du péché. Pour la plupart, oui. Mais parfois, il y avait des sacrifices offerts pour d'autres raisons. La motivation, la signification étaient bien autres. Et ça, c'est le cas devant nous ce matin au chapitre 2 et 3. La motivation n'était pas recevoir le pardon du péché. C'était bien autre. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour expliquer ces sept premiers chapitres de Lévitique. Les cinq premiers chapitres, chaque chapitre donne des instructions aux Israélites pour un sacrifice ou pour une offrande différente. Chapitres 6 et 7 sont des instructions aux prêtres. Que faire quand une personne se présente avec une offrande? Et c'est-à-dire que nous devons examiner l'ensemble de ces chapitres pour trouver toute l'instruction de Dieu sur ces offrandes et instructions. Et comme toujours, en lisant ces chapitres, en fait, en lisant toutes les Écritures, nous devons tout d'abord essayer de les comprendre dans leur contexte. Ensuite, de voir s'il y a un lien avec le Christ, et afin de les appliquer à nous-mêmes. Nous, le peuple de Dieu, bien après Jésus-Christ. Alors, voyons tout d'abord la scène. Il y a plus ou moins 3500 ans, c'est-à-dire l'époque où ces instructions étaient données. Je ne sais pas si les enfants ici présents ce matin savent compter ou peuvent donner les lettres de l'alphabet. Mais c'est bien que on ne prend pas 2, 4, 7, 9, 10, 1. Non, non, il faut apprendre à les dire dans la séquence correcte. 1, 2, 3, 4. Même chose A, B, C. Et c'est la même chose avec ces chapitres en Lévitique. Dans un sens, le chapitre le plus important ici, c'est le premier chapitre que nous avons considéré la dernière fois. Les instructions sur l'Holocauste, où le sacrifice était brûlé entièrement. C'était un sacrifice pour l'expiation du péché. Et c'est-à-dire les offrandes et les sacrifices au chapitre 2 et chapitre 3 viennent après. Les personnes qui présentaient ces sacrifices savaient que leur péché était déjà expié. Leur péché avait été déjà effacé. Non par les sacrifices eux-mêmes, mais ils savaient que ces sacrifices-là dirigeaient l'attention à Jésus-Christ. Alors, l'Holocauste, au chapitre 1, le sang était versé et l'Israélite savait que ses péchés Eddie Pardonnet. Au chapitre 2, l'offrande là est unique, parce qu'elle est le seul où il n'y a pas d'animal tué. En français, certaines traductions l'appellent l'offrande végétale ou l'offrande en graines. Au chapitre 3, l'offrande est parfois appelée le sacrifice de communion, le sacrifice de paix ou le sacrifice d'action de grâce. Mais et chapitre 2 et chapitre 3, toutes les deux expriment cette dévotion à Dieu qui les avait abondamment bénis. Alors nous allons les considérer l'une après l'autre, sans nous perdre trop dans les détails, je l'espère. L'offrande en graines, en chapitre 2 et chapitre 6, à partir du verset 7, était adaptée pour des gens riches et des gens pauvres. Pour les plus riches, il fallait apporter du pain avec une farine fine, mais du pain cuit dans une four. Pour les moins riches, c'était du pain fait dans une poêle ou sur un grill. Et pour les autres, les plus pauvres, c'était simplement quelques graines rôties dans le feu. Et quel que soit le cas, quelle que soit la taille du pain, la qualité de la galette ou autre, l'adorateur disait à Dieu, « Tout ce que je possède vient de toi. Cette nourriture que j'ai, cette farine que je possède, vient de toi. Je te donne une partie de ce que tu m'as donné. Tu m'as pardonné. Je me donne alors à toi. » L'adorateur se donnait à Dieu. Mais bien sûr, toute son offrande est allée au sacrificateur, au prêtre. Le pain était leur nourriture. L'adorateur, l'Israélite, est rentré chez lui, les mains vides, mais satisfait que son offrande avait plu à Dieu. Et comme j'avais dit la dernière fois, on ne peut s'approcher de Dieu en nos propres termes. Je viens comme je veux. Non. Pour venir à Dieu, nous devons nous approcher comme il le veut. Et ça, c'est vrai ici, dans ses offrandes. Par exemple, Dieu ne dit pas, tu peux faire du pain en suivant n'importe quelle recette. Non. Il y avait certaines choses qu'il ne pouvait mettre dans le pain. Pas de levain, pas de miel. Mais d'autres ingrédients étaient possibles. Farine, certes, mais huile, encens et sel. Nous allons revenir à ça dans un instant. Mais je dis simplement ici que presque partout dans la Bible, le levain est symbole de corruption et du mal. Et si on met le miel dans une chose pour être cuire, après un peu de temps, elle peut devenir aigre. Alors, ni levain, ni miel. Une dernière chose avant de terminer cette offrande. Le même mot en hébreu est utilisé, le même mot pour cette offrande, est utilisé en Genèse chapitre 4 pour l'offrande de Caïn. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Et bien sûr, Dieu n'a pas accepté ni l'offrande, ni Caïn. Où est-il le problème? c'est ce que j'ai dit au début. Toutes les autres offrandes sont secondaires et dépendent de l'expiation de l'Holocauste. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Si nous apportons nos meilleures œuvres, les meilleurs fruits de notre jardin, pour une offrande à Dieu, ça ne marche pas. Si notre foi n'est pas tout d'abord sur le sang versé de Jésus-Christ. Venons maintenant au sacrifice de communion au chapitre 3 et au chapitre 7 à partir du verset 11. Et encore une fois, cette offrande est unique parce qu'on pourrait offrir un animal mâle ou femelle, mais bien sûr toujours sans défaut. Et nous voyons que tout de suite, jouir, profiter de la communion avec Dieu a coûté cher. Il fallait offrir un taureau, un brebis, une chèvre. Avec les holocaustes, on pouvait offrir un oiseau, mais un oiseau était impossible ici. Et la raison est bien simple. Parce qu'avec ce sacrifice de communion, il fallait que la graisse soit présentée à Dieu. Et comme tout le monde sait ici, avec les oiseaux, il y a très peu de graisse. Il fallait un animal. Au chapitre 7 que nous avons lu ensemble, on découvre qu'il y a plusieurs motivations pour offrir un tel sacrifice. Faire un vœu. Exprimer sa gratitude, par exemple. En fait, presque toujours, au cours du sacrifice, la personne a témoigné de combien Dieu l'avait béni. Au cours du sacrifice, la personne qui a porté le sacrifice a témoigné de combien Dieu l'avait béni. Et par exemple, dans le psaume 107, à partir du verset 21, nous lisons qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'il offre des sacrifices de reconnaissance et qu'il redise ses œuvres avec des cris de joie. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Et il est presque certain que plusieurs psaumes étaient des témoignages de David dans le tabernacle. La bonté de Dieu, tu es ma forteresse, tu es ma bonté, tu m'as fait du bien. C'était des paroles que David avait exprimées lors de ce sacrifice de reconnaissance. Alors, concernant comment ce sacrifice de reconnaissance s'est déroulé, au début, la procédure était exactement comme avec l'Holocauste. La personne a apporté l'animal, elle a posé sa main sur l'animal, a égorgé l'animal, et le sang est versé autour de l'autel. Mais après, c'était totalement différent. Une partie était pour Dieu. Et cette partie était totalement brûlée. Notamment la graisse, les rognons et un peu du foie. Et surtout, chapitre 3, verset 16, il y a cette petite phrase, « Toute la graisse appartient à Dieu. » Alors, j'imagine que quand vous allez au supermarché, à boucherie pour acheter de la viande, vous dites, j'aimerais avoir un morceau avec beaucoup de graisse. Non. De nos jours, personne ne veut ça. Mais en fait, les Israélites ont rarement mangé de la viande. Et pour eux, la graisse était la partie la plus prisée. La graisse était le meilleur de la viande. Et le meilleur était offert à Dieu. Alors, une partie est donnée à Dieu. Et une deuxième partie est donnée au prêtre. La poitrine et la cuisse droite. Et le reste était pour l'adorateur et toute sa famille. Il y avait la viande du sacrifice. Et comme nous avons lu là au chapitre 7, on avait aussi apporté des galettes et des gâteaux. Et là, dans l'enceinte du tabernacle, toutes les personnes ensemble ont mangé ce sacrifice de reconnaissance. Les prêtres ont mangé. Dieu a consumé sa partie. Et la personne avec tous ses amis, toute sa famille ensemble. Et c'est pour cette raison-là, bien sûr, que ce sacrifice est appelé le sacrifice de communion ou le sacrifice de paix. Alors, il y a sans doute beaucoup d'autres aspects de ces deux sacrifices qu'on pourrait mentionner, mais ça suffit pour l'instant. Ça, c'était il y a 3500 ans. Maintenant, deuxième lieu, la scène, plus ou moins il y a 2000 ans. Comme nous avons déjà vu, tous ces sacrifices-là dirigent notre attention à Jésus-Christ. La richesse de sa personne, la richesse de son œuvre sont telles qu'un seul sacrifice ne peuvent le capter. Alors, il y a des sacrifices, des offrandes différentes. Alors, considérons tout d'abord l'offrande en graines. Chapitre 2. Et le lien est si évident. Dans Jean, chapitre 6, Jésus se présente comme le pain de vie. Le pain de vie. Et tout comme il n'y avait pas de levain, ni de miel dans le pain dans Lévitique 3, il n'y a pas de corruption chez Jésus, aucun mal. Il est tenté à nous, comme nous, à tous égards, sans commettre le moindre péché. À part la farine, les trois autres ingrédients possibles dans ce pain sont des symboles des choses trouvées en Jésus. Partout dans la Bible, l'huile dépeint le Saint-Esprit. Jésus était conçu par l'Esprit. Toute sa vie, il était habité par l'Esprit. Lors de son baptême, au début de son ministère, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il y avait la plénitude de l'Esprit en lui. Aussi partout dans la Bible, l'encens est une image de la prière. Jésus est un homme de prière. Ça, c'était le secret de sa vie en tant qu'homme sur terre. Il a beaucoup prié. Et le sel est à la fois un symbole de pureté, mais aussi de l'inviolabilité de l'alliance de Dieu. ont troussard dans l'ancien temps. Le ciel était un garant que l'alliance va être maintenue. Oui, Jésus est le pain de vie qui nous dit, comme nous avons lu dans Jean 6, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Dans cette offrande, le grain, c'était les prêtres qui ont mangé le pain. Alors, je saute quelques semaines en avance. Je ne sais pas, en 2017, Dieu voulant, nous allons considérer l'enseignement concernant des prêtres ici dans Lévitique. Mais simplement, je dis que aujourd'hui, nous sommes tous des prêtres si nous sommes en Christ. Alors, si nous sommes des prêtres en Christ, nous pouvons, nous avons déjà mangé, nous devons manger ce pain, le pain qui est Jésus-Christ. Et bien sûr, nous prenons de lui, non pas physiquement, par la foi, ce pain qui est offert à Dieu. Avec le sacrifice de communion, d'autres parallèles existent. Le sacrifice était la source, était la base de cette communion. Grâce au sang versé dans l'Holocauste, grâce au sang même versé dans ce sacrifice, la communion et la paix avec Dieu étaient possibles. Il est pareil avec le sang du Christ. Le sang des animaux dans l'Ancien Testament dirige notre attention au sang de Jésus-Christ. Même tout de suite après sa naissance, les anges chantent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Cet homme vient pour apporter la paix. Tout de suite après sa résurrection, sa salutation aux disciples était « Que la paix soit avec vous. » Et partout dans le Nouveau Testament, le privilège d'être en paix avec Dieu grâce au Christ est souligné. Je donne simplement deux exemples. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, Colossiens 1, verset 20. Car il a plu à Dieu de te réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dans Lévitique chapitre 7, à partir du verset 15, nous avons lu des instructions pour manger le sacrifice. Et d'ordinaire, tout était mangé ce jour même. Il était possible de le manger même le lendemain. Mais le troisième jour, impossible. Pourquoi une telle restriction? Sans doute, il y avait des raisons pratiques. Je ne pense pas que dans les tentes des Israélites, il y avait beaucoup de frigo ni congélateur. Et dans le tabernacle, il n'y en avait pas. Des raisons pratiques, sans doute. Mais aussi, il fallait maintenir le parallèle avec le Christ. Là, le sacrifice est resté mort pendant 3 jours. Et après, il est revenu à la vie. Alors, le troisième jour, impossible de manger cette viande dans le sacrifice de communion. La scène, il y a 2000 ans. Et en troisième lieu, la scène aujourd'hui. Dans son épître à Timothée, Paul dit que toutes les écritures sont profitables pour enseigner, pour redresser, y compris ces chapitres en Lévitique. Quel est l'enseignement? Quelles sont les applications pratiques dont nous avons besoin ce matin? Et la première chose est tout simplement, nous devons retenir et lors des sacrifices, se donner en service à Dieu, jouir de la paix, tout ça est impossible sans qu'auparavant le sang soit versé et expiation faite. Bref, la justification vient avant la sanctification. Il y a des personnes qui désirent faire toutes sortes de choses pour le Seigneur. Et ils espèrent qu'en faisant ces choses-là, elles seront acceptées par Dieu. Mais non. Par nos œuvres, nous ne pouvons pas être acceptés par Dieu. C'est uniquement par le sang de Jésus-Christ. Mais bien sûr, avec notre foi en Christ, avec notre confiance en Christ, nous devons désirer le servir. Nous devons désirer nous donner pleinement à lui. Nous devons lui donner nos offrandes, nos œuvres. Et bien sûr, quand nous donnons notre argent, par exemple, à Dieu, souvent cet argent profite aux serviteurs de Dieu. Mais nous donnons nos offrandes à Dieu. Et la question se pose, est-ce que nous donnons de notre mieux à Dieu? Ou est-ce que nous donnons nos restes à Dieu? Est-ce que nous donnons le meilleur de notre temps, le meilleur de notre énergie, le meilleur de notre argent, le meilleur de nos talents? Ou s'il y a quelque chose qui nous reste, s'il y a un peu de temps disponible, peut-être. Dieu a reçu le meilleur dans les sacrifices. Dieu se délecte toujours des sacrifices de son peuple. Partout dans ces deux chapitres 2 et 3, il y a une petite expression d'une agréable odeur à Dieu. D'une agréable odeur à Dieu. Et la dernière fois, nous avons vu que Dieu a estimé même le sacrifice de Jésus-Christ comme ça, Ephésiens 5, verset 2. Mais considérons Philippiens 4, verset 18. Paul vient de recevoir un don des Philippiens. Il écrit, « Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui, lui, est agréable. Nos offrandes vers les œuvres de Dieu, vers les serviteurs de Dieu, sont des sacrifices d'une bonne odeur, agréable à Dieu. Et ensuite, estimons-nous vraiment le privilège d'être en communion et en paix avec Dieu? Cette communion de reconnaissance, de paix, d'action de grâce. Pour nous, la paix, ça veut dire tranquillité. Parfois, nous disons aux autres, laisse-moi en paix. Laisse-moi tranquille. Mais dans la Bible, le mot paix, le mot shalom, est beaucoup plus riche que ça. C'est notre bien-être, c'est notre santé, c'est notre prospérité, c'est notre joie, c'est notre pardon, c'est tout. Être en paix avec Dieu, c'est une chose merveilleuse. Je ne veux pas dire davantage parce que Dieu veut en dimanche prochain. Andrew est dans Philippiens chapitre 1, verset 2. Grâce et paix. Mais ici, quand on a offert ce sacrifice, l'ambiance était d'une joie sainte, une joie solennelle qui s'est manifestée dans le témoignage et dans la louange. Mais peut-être que ce matin, l'application directe qui sort de ce chapitre est la Sainte Cène. Dans l'Ancien Testament, un repas a souvent confirmé les relations d'une alliance. Et quand Jésus a institué la scène, il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom. Un repas qui scelle l'alliance. Un des noms pour la scène est la communion. Il doit y avoir vraiment une communion ensemble quand nous observons la scène. Et un autre nom pour la scène est l'Eucharistie, un mot grec qui signifie reconnaissance ou action de grâce. La Sainte Cène est un repas. Mais pas un repas que nous mangeons seuls chez nous devant la télé. Non, non, c'est un repas ensemble. On ne donne pas une petite bouteille de vin, un petit morceau de pain, alors chacun peut rentrer chez lui. Avec... Non, non, c'est ensemble. C'était là dans l'enceinte du tabernacle. Les adorateurs ne savent rentrer chez eux. Et ensemble, ils ont mangé. Et ensemble, ils ont parlé de combien Dieu les avait bénis. Ils ont parlé de leurs expériences personnelles, de la grâce de Dieu. Ils étaient reconnaissants envers Dieu. Ils ont partagé cette communion avec Dieu, avec des frères et des sœurs, avec des prêtres, tous ensemble. Au chapitre 7, à partir du verset 19, il y a toute une liste concernant la façon de manger. Quiconque est pur peut manger de la chair, mais celui qui se trouve en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice de communion qui appartient à Dieu. Celui-ci sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur, une impureté abominable quelconque, et qui mangera de la chair du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, sera retranché de son peuple. De même, si on vient à la table du Seigneur, et on n'aime pas vraiment le Christ comme Seigneur et Sauveur, on n'aime pas les frères et les sœurs, on vient avec un péché connu qui n'est pas confessé. On attire un jugement de Dieu sur nous. Ceux qui ont mangé en Lévitique pour y voir l'autel. L'autel était là où était offert le sacrifice, où était versé le sang. Mais dans la scène, sans scène, il n'y a pas d'hôtel. Pas d'hôtel. Plus besoin des hôtels pour verser du sang, parce que Jésus-Christ a offert le dernier sacrifice en sang. Après lui, plus besoin d'offrir des sacrifices sur un hôtel. L'épître aux Hébreux, à maintes reprises, souligne combien Jésus a accompli toutes les offrandes et tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 3, l'auteur demande simplement, combien échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Combien échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et ce matin, cette question s'adresse à chacun d'entre nous. Comment allons-nous échapper à cette justice de Dieu? Oui, pour ceux qui ont commis ces actes abominables à Bataclan, à Nice et partout. Eux, ils n'échapperont jamais à la justice de Dieu. Mais nous, citoyens modèles, extérieurs bien, mais dans notre cœur, péché, non pardonné, une absence d'amour réel pour Dieu, pour Jésus. Nous n'avons jamais vu qu'à la croix, Jésus est mort pour des personnes comme nous. Nous ne sommes jamais agenouillés devant lui pour recevoir ce salut. Ce salut. Si grand, si précieux. Ces chapitres de Lévitique, il y a des chemins directs, même des autoroutes directes vers Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à bien méditer ces paroles et à voir le Christ partout dans ces versets. Amen. Alors nous allons chanter ensemble dans les paroles du psaume 72. 72 à la page 13 dans ce recueil. Et nous allons chanter les strophes 6 à 9. Et le psalmiste, d'une façon prophétique, il parle de Jésus-Christ. L'humble appelant, il a sauvé, et le faible que nul secours. Il a soin de tous les frustrés, les pauvres lui ont recours. Dans la strophe numéro 8, que son nom toujours réjouisse, que sous le soleil on l'acclame, et que l'un l'autre en se bénisse, que bienheureux on le proclame. Béni soit le Dieu d'Israël, béni soit notre grand Dieu. Alors le psaume 72, les strophes 6 à la fin, alors levons-nous pour chanter ensemble.
No, 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 no.